Il est 19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique, Le Monde Aujourd'hui, édition du vendredi 12 septembre 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec. Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Morgane et bonsoir à tous et à toutes.
Au sommaire ce soir, arrestation d'un islamiste algérien dans le nord du Mali.
Le point sur le virus Ebola qui a déjà fait plus de 2400 morts.
Bangui se prépare au déploiement de casques bleus.
Condamnation du député Jean-Bertrand Ewanga en République démocratique du Congo. Il écope d'un an de prison ferme pour outrage au chef de l'État.
En Afrique du Sud, Oscar Pistorius reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir tué sa compagne.
Nouvelle sanction de l'Union européenne et des États-Unis contre la Russie en rapport avec la crise ukrainienne.
Et comme toujours en fin d'émission, nos pages sport et musique. Pour l'instant, le journal.
L'armée du Nigeria indique avoir infligé aujourd'hui un revers à des combattants de Boko Haram non loin de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Abuja dit avoir envoyé des renforts pour sécuriser la ville. Jean-Roger Bion.
D'après l'agence Reuters, les habitants de Maïdougouri ont dit avoir entendu des coups de feu et des explosions dans les environs de Kanduga, à 35 km au sud-est de la ville aujourd'hui, et vu un peu plus tard une colonne de véhicules de l'armée se diriger dans cette direction. Le porte-parole du gouvernement Mike Omeri est formel, les assaillants ont été repoussés et l'armée a fait des victimes de leur côté, a-t-il déclaré. Mais il n'y a eu aucune confirmation de sources indépendantes. Les islamistes de Boko Haram avaient encerclé la ville de Maïdougouri et des combats acharnés les opposaient depuis ce matin aux forces gouvernementales. Maïdougouri, capitale de l'État de Borno, a une importance toute particulière pour Boko Haram. C'est dans cette ville que le mouvement islamiste a été créé en 2002, à l'époque dans le but de combattre la corruption, avant de basculer dans la lutte armée. Ces dernières semaines, Boko Haram a pris de nombreuses villes et villages de l'État de Borno et de ses voisins, Yobe et Adamawa.
Arrestation d'un islamiste algérien dans le nord du Mali, Mehrik Djafar, recherché dans son pays, a été transféré à Bamako. C'est ce qu'annoncent des responsables sécuritaires cités par l'AFP. C'est un gros poisson, affirme une source au sein de la mission de l'ONU au Mali. Mehrik Djafar aurait été arrêté par les groupes armés qui contrôlent la région de Kidal, avant d'être livré aux forces françaises qui, à leur tour, l'ont remis aux forces maliennes. Parmi des documents retrouvés sur lui figurent des lettres appelant au djihad ainsi que des images où le suspect est aux côtés de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, un des plus importants djihadistes dans le Sahel, a-t-on précisé.
Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la directrice générale de l'OMS estime que des renforts en personnel de santé qualifié sont nécessaires pour faire face à la situation. En attendant, le bilan continue de s'alourdir, Lola Akomachi.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué plus de 2400 personnes sur 4 784 cas, a fait savoir aujourd'hui la directrice de l'OMS, Margaret Chan. Le plus grand obstacle reste le manque de personnel qualifié, a-t-elle souligné.
Money, materials are important, but those alone.
L'argent et le matériel sont importants, mais à eux seuls ne peuvent pas arrêter la propagation de l'Ebola. Les ressources humaines sont le plus important, en particulier le besoin en médecins et infirmiers compatissants qui seront confortés les patients, a expliqué la patronne de l'OMS aujourd'hui à Genève, en se félicitant de la décision de Cuba d'envoyer 165 professionnels de la santé en Afrique de l'Ouest. Les centres de contrôle des maladies infectieuses des États-Unis ont aussi envoyé des spécialistes et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, sollicite des volontaires pour l'Afrique de l'Ouest sur son site internet. Le médecin américain Rick Sacra, traité aux États-Unis, va beaucoup mieux selon sa famille. Une remarquable amélioration qui pourrait être due à deux transfusions de plasma sanguin provenant d'un de ses collègues, le docteur Kent Brantley, désormais guéri de l'infection.
Violence à 12 dans le sud de la Tunisie. Pour la deuxième nuit consécutive, des heurts ont opposé des policiers à des manifestants protestant contre l'arrestation d'un militant islamiste. Et c'est ce qu'indique le ministère de l'Intérieur, faisant état de 26 interpellations. Les manifestants ont notamment bloqué des routes en incendiant des pneus, jetant des pierres sur les policiers qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène, selon la radio tunisienne Mosaïque FM.
En République centrafricaine, au moins 30 personnes ont été tuées hier dans un accident de circulation à l'entrée de Boali, à 95 km au nord-ouest de Bangui. Plusieurs blessés graves sont évacués dans la capitale. Par ailleurs, des mouvements inhabituels des ex-Seleka à Bambari ont inquiété les habitants. Le point avec Michel Joseph.
Selon Mme Chouré Gbadine, sous-préfet de Boali, l'accident a eu lieu à 16 km de Kassango, à la sortie de la ville. Le véhicule accidenté faisait partie d'un convoi venu de Garoua Boulaye, à la frontière camerounaise, et escorté par les forces de la MISCA. Le drame serait survenu suite à un excès de vitesse. Jusqu'à cet après-midi, le bilan provisoire faisait état d'au moins 30 morts et de nombreux blessés. Certains cas graves ont été évacués à Bangui. Dans la même journée d'hier, un autre accident de circulation a fait 3 morts et un blessé à Bangui. Par ailleurs, à l'intérieur du pays, c'est la nouvelle psychose à Bambari, au centre-est. Des sources locales ont indiqué que les combattants de l'ex-Seleka multiplient depuis hier des mouvements inhabituels dans la ville. Des ex-combattants rebelles blessés ont même été évacués de l'hôpital. De son côté, le général Joseph Zoundeko, chef d'état-major des ex-Seleka, a parlé de fausses rumeurs, mais il a néanmoins confirmé le retrait de leurs éléments de l'hôpital de la ville. Notons qu'à Bangui, des rumeurs d'une probable attaque des hommes de la Seleka sur la capitale alimentent les débats.
Et nous restons en République centrafricaine. Les États-Unis ont annoncé la réouverture de leur ambassade après une absence de près de 2 ans. Dans une lettre au Congrès hier, le président Barack Obama a déclaré que 20 soldats américains sont arrivés pour établir un périmètre de sécurité à l'ambassade à Bangui. Cette décision intervient alors que les États-Unis commencent une nouvelle mission de maintien de la paix dans le pays. Pour une réaction, Bagessikoura a tendu son micro à Gaston Makuzangba, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et porte-parole du gouvernement. Et voilà.
Voilà, nous avons quelques difficultés techniques avec cet élément. Poursuivons maintenant, voici maintenant la suite de ce journal. Condamnation du député Jean-Bertrand Ewanga en République démocratique du Congo, figure de l'opposition et secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Il écope 1 an de prison ferme pour outrage au chef de l'État, aux membres du gouvernement et aux membres du Parlement. La sentence est tombée hier soir, à moins de 48 heures d'une manifestation contre le président Joseph Kabila.
Le Sud-Africain Oscar Pistorius, disculpé des accusations de meurtre, a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir tué sa compagne, Riva Steenkamp. Nathalie Barge.
La juge Tokozile Masipa a prononcé le verdict tant attendu ce vendredi contre le sprinteur handisport sud-africain qui a tué chez lui l'an dernier sa compagne, la mannequin Riva Steenkamp.
The accused is found not guilty and is discharged. Instead, he is found guilty.
Du premier chef d'accusation de meurtre comme défini dans l'alinéa 51.1 de l'amendement de la loi pénale 105 de 1997, l'accusé est déclaré non coupable et acquitté, mais il est reconnu coupable d'homicide involontaire. Les procureurs ont fait valoir que Pistorius a agi intentionnellement quand il a tiré sur sa compagne à travers la porte des toilettes chez lui à Pretoria. L'accusé affirme qu'il pensait avoir tiré sur un intrus cette nuit de février 2013. Selon la juge, Pistorius n'a pas agi raisonnablement quand il a tiré 4 coups de feu dans la porte, sachant que quelqu'un était dans les toilettes et serait probablement tué. Mais, dit-elle, il n'a pas non plus agi comme quelqu'un qui venait de commettre un meurtre, notant qu'il a rapidement appelé les autorités et a tenté de ranimer la jeune femme. En Afrique du Sud, l'homicide involontaire est passible jusqu'à 15 ans de prison. La juge a statué que Pistorius pouvait rester en liberté sous caution jusqu'à la sentence qui est prévue pour le 13 octobre.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé l'octroi de près de 500 millions de dollars d'aide supplémentaire des États-Unis aux personnes touchées par la guerre civile en Syrie. Sarah Diaby.
L'annonce a été faite aujourd'hui par M. Kerry en Turquie. Plus de 250 millions de dollars du programme seront décaissés pour aider les 3 millions de réfugiés syriens qui ont fui vers les pays voisins, notamment la Jordanie, la Turquie, l'Irak, le Liban et l'Égypte. Une grande partie de l'enveloppe sera consacrée aux civils déplacés à l'intérieur de la Syrie. M. Kerry est en voyage d'une semaine pour aider à former une coalition mondiale contre les extrémistes de l'État islamique en Syrie et en Irak. Lors des pourparlers tenus jeudi en Arabie Saoudite, la Turquie a refusé d'approuver un plan d'ensemble présenté cette semaine par le président Barack Obama contre le groupe militant sunnite. Mais 10 pays arabes se sont joints à la coalition promettant d'aider les États-Unis à détruire l'État islamique où qu'il soit.
Ce qu'elle connaît ? Voilà. Selon les services de renseignement américains, l'État islamique a entre 20 000 et 31 500 combattants en Irak et en Syrie, soit le double de ce qu'on pensait. Cela s'explique, a dit un porte-parole de la CIA, par un plus grand nombre de recrues depuis juin pour l'État islamique, c'est-à-dire depuis les succès qu'il a enregistrés sur le terrain et sa déclaration du califat en Irak et en Syrie.
En Israël, des dizaines de soldats de réserve d'une prestigieuse unité de renseignement ont envoyé une lettre au gouvernement pour annoncer leur refus d'endosser l'uniforme parce qu'ils sont tenus de mettre sous surveillance des millions de Palestiniens.
Dans une lettre publiée aujourd'hui par le Yedioth Ahronot et adressée au Premier ministre Benjamin Netanyahou et au chef de l'armée israélienne, les 43 soldats estiment que ce genre d'activité de surveillance empêche les Palestiniens de vivre une vie normale. Selon eux, ils ont posé ainsi un acte moral, mais l'armée a rejeté leur lettre, la qualifiant de truc publicitaire par un petit groupe de marginaux.
L'Union européenne et les États-Unis ont mis en œuvre aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie à cause de l'intervention de Moscou en Ukraine.
Ces mesures visent des firmes dans le secteur de l'énergie, dont Rosneft, la plus importante compagnie pétrolière russe, Gazprom Neft, la branche pétrolière du géant du gaz, et Transneft, qui opère le pipeline russe, et trois entreprises russes du secteur de la défense qui ne pourront pas obtenir de financement de leurs dettes sur le marché de l'Union européenne. Les banques russes, dont la plus grande du pays, Sberbank, pour la première fois a été ciblée.
Sont également visés des individus comme les leaders séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine, des décideurs et oligarques russes dont Sergueï Semezov, un proche du président Vladimir Poutine, et l'ultranationaliste Vladimir Zhirinovsky.
Au Pakistan, les autorités annoncent l'arrestation de 10 militants soupçonnés d'implication dans la tentative d'assassinat de Malala Yousafzai en 2012. L'adolescente, qui a survécu à ses blessures par balles, est devenue depuis une icône internationale de la paix et du droit à l'éducation des enfants.
Les suspects auraient avoué, selon les autorités, avoir agi sous les ordres des talibans pakistanais. Ils doivent être jugés par les tribunaux antiterroristes qui ont été très souvent critiqués pour avoir libéré des suspects pour, et je cite, un prétendu manque de preuves.
En Chine, les médias d'État annoncent qu'un tribunal du sud-ouest du pays a condamné 3 hommes à mort et une femme à la prison à vie pour la mort de 31 personnes lors d'une attaque au couteau devant une gare de la ville de Kunming.
Les 4 ont été reconnus coupables de meurtre et d'appartenance à un groupe terroriste. Pékin a rejeté sur des militants islamistes de la région de Xinjiang, dans le nord-ouest, la responsabilité de cette attaque qui, le 1er mars dernier, avait fait également 141 blessés. Les musulmans ouïghours de Chine se plaignent de persécutions.
Voilà pour le journal. Au micro, Idrissa Seydoudia et Morgane Guerriec en direct de Washington. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui et sur la Voix de l'Amérique. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission.
Le 10 avril dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies avait adopté la résolution 2149 créant la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation de la Centrafrique. Eh bien, ce lundi 15 septembre, cette force de maintien de la paix entrera effectivement en fonction. Les enjeux d'une telle mission avec notre envoyé spécial à Bangui, Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Nous partons maintenant au Bénin. Les rentrées scolaires et universitaires, auront-elles lieu sans accrocs ? C'est la question que se posent parents et élèves, alors que les centrales syndicales ne cessent de monter au créneau pour appeler le gouvernement à prendre en compte leurs revendications. De Cotonou, Peggy Ludovic Dagba nous en dit plus.
La rentrée scolaire et universitaire 2014-2015 est fixée au 6 octobre 2014 en République du Bénin. Et déjà, des menaces de la part des leaders syndicaux. Pascal Tojinon de la CGTB, la Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, Noël Chadari de la COSI, la Centrale des Organisations Syndicales Indépendantes, et Paul Esseïko de la CSTB, la Centrale des Syndicats des Travailleurs du Bénin.
Si éventuellement on n'engage pas de négociations très tôt pour trouver des solutions aux différentes revendications laissées en rade, cela pourrait perturber les activités pédagogiques 2014-2015.
Nous avons pris à témoin l'opinion nationale et internationale pour le mutisme dans lequel le gouvernement du président Yahi se trouve.
Si la rentrée est bloquée, l'année scolaire va en pâtir aussi.
Des menaces qui inquiètent les parents d'élèves parce que décidés à ne plus vivre les grèves intempestives de l'année scolaire dernière. Quelques-uns parmi eux rencontrés à Cotonou implorent ici le gouvernement à saisir la balle au rebond et discuter franchement avec les syndicalistes.
Je demanderai aussi aux syndicalistes, c'est vrai, peut-être toutes les revendications ne seront pas satisfaites du coup, mais de par les discussions, le consensus peut-être trouvé pour que nous n'ayons plus une année vraiment perturbée.
Donner à César ce qu'est à César et à Dieu ce qu'est à Dieu. Je vais demander à l'État, en tant que parent d'élèves, vraiment d'écouter, de ramener la balle à terre avec les syndicats et tout ça pour que la rentrée ne soit pas encore menacée comme l'année précédente.
Malheureusement, ces menaces et cris de détresse n'ont encore suscité jusque-là aucune réaction de la part du gouvernement, ce qui amène les syndicalistes à rejeter toute responsabilité en cas de perturbation de l'année scolaire. Pascal Tojinou de la CGTB et Noël Chadaré de la COSI Bénin.
Le gouvernement de mon pays ne fait rien et j'ai peur qu'on attende le dernier moment pour commencer par courir comme les sapeurs-pompiers mal organisés.
S'il y a les crises, c'est la faute à qui ? C'est le gouvernement qui n'est pas sincère dans ce qu'il fait. Non, c'est quand il y a grève, on dit que voyez, ce sont les enseignants qui, toujours, c'est eux, pour diaboliser les syndicats.
Peggy Ludovic Dagbar, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
L'Écosse se prépare au référendum sur l'indépendance sous l'œil scrutateur de nombreux autres pays. Certains s'en inquiètent en y voyant une expérience risquée, tandis que divers groupes espèrent un vote favorable à l'indépendance envers le Royaume-Uni, indépendance qui pourrait alors redynamiser le séparatisme chez eux. Les immigrés en Écosse pourraient jouer un rôle décisif au cours de ce scrutin, nous dit Michel Joseph.
Dans le cadre paisible de l'église Mayfield Salisbury à Edinburgh, Chakpor Chung distribue le bulletin mensuel de l'église évangélique chinoise. Né à Hong Kong, il vit en Écosse depuis les années 70 et est parfaitement conscient de la forte identité nationale de son pays d'adoption. En partie, c'est ce nationalisme qui pousse certains Écossais à demander l'indépendance d'avec Londres. Particulièrement ces dernières semaines, le monde entier a les yeux sur l'Écosse et je ne suis pas surpris que le gouvernement chinois ait un œil là-dessus. Mais je ne pense pas que cela soit comparable au cas de Hong Kong, parce que Hong Kong était une colonie britannique avant d'appartenir à la Chine. Il y a également beaucoup d'intérêt à observer depuis l'Inde l'éclatement potentiel de l'ancienne puissance coloniale, note Jas Singh, un Indien originaire du Punjab. L'Écosse peut-elle se séparer de l'Angleterre ? En 1949, le Pakistan s'est séparé de l'Inde, a-t-il rappelé. Le même scénario est aux portes de la Catalogne, au nord-est de l'Espagne, où l'intérêt pour le référendum écossais va au-delà d'une simple curiosité. Des manifestants sont descendus dans les rues jeudi pour exiger l'indépendance de Madrid. Les Catalans planifient leur propre référendum pour le mois de novembre. Le gouvernement espagnol a fait savoir qu'il n'en reconnaîtra pas le résultat. De nombreux Catalans estiment que si une Écosse indépendante et prospère devient membre de l'Union européenne, leur rêve d'un État à eux ne sera pas loin de se réaliser. Conchita Molins, qui tient une boutique de saucisses à Barcelone, espère que le gouvernement central de Madrid va réagir comme l'Angleterre en Écosse. Si le oui l'emporte, alors qu'ils se tiennent prêts à entamer un dialogue, dit-il. J'espère que nous pouvons envisager d'être comme eux, de voter et de voter oui, si nous avons des possibilités de gagner. Le vote en Écosse est prévu le 18 septembre et pourrait avoir d'énormes conséquences pour la Grande-Bretagne et le reste de la planète.
À présent, les sports avec Jean-Roger Bion. Jean-Roger, bonsoir.
Idrissa Seydou Dia, bonsoir.
Suite du Mondial de basketball messieurs en Espagne, l'autre finaliste sera connu ce soir à l'issue du choc France-Serbie.
Le vainqueur de ce match croisera en finale les États-Unis, double champion olympique et tenant du titre, Team USA, qui a étrié en demi-finale hier la Lituanie 96-68.
La Fédération ghanéenne de football a limogé aujourd'hui Kwesi Appiah de la tête des Black Stars.
Appiah, qui dirigeait les Black Stars depuis 2012, les a qualifiés pour le mondial brésilien, mais les a vus sortis dès le premier tour après un match à domicile face à l'Ouganda, un but partout. En match de qualification pour la CAN 2015, les Black Stars se sont ressaisis dimanche, battant le Togo par 3-2.
À propos de la CAN 2015, justement, le pays organisateur, à savoir le Maroc, a fait un appel du pied à l'ailier Karim Belarabi du championnat allemand.
Et le coach marocain Badou Zaki a rencontré ce sociétaire du Bayer Leverkusen de 24 ans, qui a déjà joué pour la sélection allemande des moins de 21 ans, mais qui a encore la possibilité de rejoindre les Lions de l'Atlas s'il saisit la FIFA.
En Algérie, le stade de la JS Kabylie suspendu jusqu'à la fin de la saison en rapport avec la mort d'Albert Ebossé.
L'annonce a été faite aujourd'hui par la fédération algérienne elle-même. L'attaquant camerounais de 24 ans a été tué, vous vous en souvenez, le 23 août par un morceau d'ardoise lancé des tribunes. Le club de Tizi Ouzou est soumis à un huis clos de 6 mois et ses supporters seront interdits des stades durant la phase aller du championnat algérien qui a été lui aussi suspendu après le décès d'Ebossé.
Eh bien, merci Jean-Roger Bion.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Drissa. Le rappeur français d'origine marocaine, Lafouine, de son vrai nom Laouni Mouhid, ira en Afrique pour une grande tournée avant la fin de cette année. On l'écoute ce soir en featuring avec Camé l'Ancien dans Vécu.
Yeah, capitale du crime, Kleta.
Lafouine, hein, qui a quitté l'école à 14 ans pour se consacrer à la musique.
Oui, il a même créé Banlieue Salle Musique, son propre label. Hein. Lafouine a été élu le meilleur artiste français au MTV Europe Music Awards en 2011 et meilleur artiste masculin au Tres Urban Music Awards en 2013. Un génie.
Notre espoir est en garde-ave, on priait le Seigneur, on sera pas ingénieur. La misère emportait la promesse de nos jours meilleurs. Frères, familles nombreuses, la vaisselle, les poussière, rajouter des couverts, ma mère est à découvert. Ton rêve est de se barrer, partir chercher la vie belle. La chance n'est pas consentante comme dans les suites du Sofitel. Je connais pas le futur, je me rappelle du passé. J'apprenais la zik avant d'apprendre à faire mes lacets. Ici on cherche des sous, on t'en parle l'autre joue. Sur la route on fait du mal, on perd des frères comme Bandicoot. Je rappe pour les blancs, les africains, les créoles. Rap est mort pour ça que sur mes chèques y'a autant d'auréoles. C'est perdu d'avance, mal et je retente ma chance. Concert riche et fermé, moi qui blindais les salles d'audience. Des fois je suis le shaitan, des fois je suis la sunna. Les absents ont toujours tort à part Zied et Bouna. Un jour on t'oubliera frère, un peu comme la Rousseau. Laisse les foncer les portes du succès frérot, j'ai le trousseau. Je me rappelle des hivers, l'eau froide dans la peignoire. Quand maman pleurait, les huissiers lui tendaient des mouchoirs. Dédicace à Ben et à Roun. Je vais percer sans baisser mon Ice Moon. Trop de... parle sur moi, je les connais à peine. Depuis j'écris des textes sur ma fucking pen. Je passe mes nuits en studio, la routine comme d'hab. Je sors des doubles albums, car mes fans veulent du rap. Baisser les bras, c'est pas pour moi. Première classe à bord du Airbus. J'en ai fait du chemin depuis mes textes à l'arrêt de bus. Un jour je rapperai torse nu pour pas retourner ma veste. Rapper avec le cœur, sœur, c'est tout ce qu'il me reste. Je finirai comme Tupac, Bigel ou Biggie. Inch'Allah, je serai dandine quand je rejoindrai le père Aziggy. Lundi, on sera la guerre, mardi, on sera des frères. Peu importe la semaine, dimanche, on dit nos cimetières. Fouine, bang.
Lafouine, featuring Camel l'Ancien, Vécu. Merci Roger.
De rien Morgane, au revoir.
Voilà Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Grosse pensée pour Jonathan Camara et tous mes frères au quart plat, enfermés comme Samara.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gueyma a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Idrissa Seydoudia et Morgane Guiriec. Je vous souhaite une excellente soirée.
Grand frère, choc familial, choc émotionnel. Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. Bref, j'arrive au collège. Avec les mecs de mon quartier, on déboule comme un cortège. 6ème B, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Avec Chou, Pomme, Spide, on a tout.